Le cycle des Lumières est un mouvement littéraire et culturel lancé en Europe au XVIIIe siècle, 1715-1789, dont le but était de dépasser l'obscurantisme et de promouvoir les connaissances. Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, dit Marivaux, est né à Paris en 1788 dans une famille de petite noblesse. Inscrit à la faculté de droit à Paris en 1710, il préfère à ses études la fréquentation des salons célèbres où il découvre la préciosité. En 1712, Marivaux publie son premier texte, Le Père prudent et équitable. Il s'essaie à différents genres littéraires, romans, feuilletons, poèmes, chroniques journalistiques ou encore comédies théâtrales. Son style est à la fois libre et sophistiqué, mais sans mièvrerie, et parfois considéré comme superficiel et frivole. Son nom a donné naissance au terme de marivaudage, pour décrire des échanges de propos galants d'une grande finesse dans un but de séduction amoureuse. Le titre du texte que nous allons étudier est L'île des esclaves. Il a été écrit par Marivaux au XVIIIe siècle et durant le mouvement des Lumières, 1715 et 1789. Bien que cet auteur n'appartienne pas vraiment à un mouvement. Mais les Lumières font évoluer le savoir et font qu'il soit accessible à tous. C'est une comédie, rédigée en prose. Elle ne compte qu'un seul acte, divisé en 11 scènes. Les principaux registres sont pathétiques et comiques. Quels sont les enjeux de cette dernière scène ? Tout d'abord, le dénouement est plein de belle humeur, mais on peut se demander s'il y a un progrès ou une régression. Dans un dénouement plein de belle humeur, il peut y avoir un achèvement d'intrigue. Dans la réplique, les personnages, et notamment Arlequin, ne font pas seulement allusion à la paix qu'ils viennent de conclure, mais ils laissent surtout entendre que l'intrigue s'achève. Ainsi, perçoit-on l'idée de fin dans le lexique d'Arlequin ? Avec les expressions « fin finale », « ligne 3 » et « mon dernier mot », « ligne 10 ». Il en va de même pour Cléantis, qui avoue « ligne 8, je n'ai que faire de vous en dire davantage ». Par deux fois, Trivelin fait de même dans sa longue réplique. À ce lexique s'ajoute une utilisation signifiante des temps verbaux. Le passé composé renvoie l'échange des conditions dans une époque révolue, tandis que le futur ouvre le dénouement à un avenir meilleur. Il peut aussi avoir une fonction dramaturgique de Trivelin. D'emblée, il convient de noter que cette dernière scène fait écho à la scène 2, puisque tous les personnages se trouvent réunis sur cette scène, ce qui correspond aux règles du dénouement classique. Trivelin revient pour constater la réconciliation des naufragés. Le spectateur attend qu'il tire alors des conclusions de cette inversion qu'il avait initiée à la scène 2. Sa réparition s'inscrit donc pleinement dans une logique de dénouement. Sa tirade le confirme. Il place son propos sous le signe d'une issue heureuse qui correspond à un dénouement de comédie. Il utilise les temps du passé afin de mettre un terme aux épreuves des maîtres. Son vocabulaire appréciatif est largement positif et montre combien il est satisfait des résultats obtenus. Enfin, celui qui prononce les dernières paroles de la pièce laisse entendre que nous l'avons vu ci-dessus. Rien de nouveau ne saurait être dit. Son rôle s'achève, le jeu est fini. La pièce aussi. Sa dernière phrase confirme l'allégresse du dénouement en ouvrant la voie au divertissement ludique et récréatif. Il y a aussi une proximité avec le conte. Devant Trivelin, Arlequin affirme « Nous sommes admirables. Nous sommes des rois et des reines, ligne 2. » À travers cette formule, certes exagérée, le dénouement apparaît bel et bien heureux, conforme à la tradition de la comédie. En effet, après les tensions, rancœurs et règlements de compte, l'harmonie et l'affection unissent les quatre naufragés. Les mots « roi » et « reine » indiquent que l'on dépasse même le cadre du dénouement de comédie et qu'on se rapproche ici du conte. Les personnages sont devenus pères et éprouvent tous des sentiments nobles et purs. La vertu triomphe, Arlequin insiste sur ce thème. Tout s'achève dans une sensibilité débordante, avec force, baiser et enlacement. Arlequin et Cléantis sont maintenant considérés par leur maître comme des personnes à part entière. Ifrigate et Euphrosyne partagent le même plaisir d'une guérison qui les a rendus meilleurs. La première intervention de Trivelin met l'accent sur les lames versées par les quatre naufragés. Et l'on peut alors mesurer combien la pièce rejoint ici la comédie larmoyante, très en vogue au XVIIIe siècle. Ces larmes sont celles du bonheur partagé, et le texte insiste sur ces idées de partage et de nuit à travers l'emploi des pronoms personnels du pluriel, qui marquent la cohésion retrouvée. La pièce s'achève donc dans une ambiance festive qui confirme la perspective du retour au pays et des réjouissances à venir. On remarquera qu'Arlequin a hâte de rentrer à Athènes. Lui, qui à la scène 1, voulait rompre avec les habitudes de cette ville, symbole de son asservissement. Ensuite, on peut se demander s'il y a un progrès ou une régression. Tout d'abord avec une leçon de l'expérience. Trivelin, voix de la raison, sur l'île doit tirer la leçon finale de l'aventure. Satisfait des changements de comportement qu'attestent les larmes et les embrassades, il prend la parole et s'adresse aux quatre naufragés avec une apostrophe des plus bienveillantes, qui scelle leur union. Mes chers enfants, ligne 11, le pronom personnel de la deuxième personne du pluriel insiste sur l'idée du groupe soudé. Ensuite, il s'adresse plus particulièrement à Iphicrate et Euphrosyne, les maîtres, pour les féliciter des progrès accomplis. C'était à eux qu'il s'adressait la cure. Il est donc normal que Trivelin, instigateur de la leçon d'humanité, les complimente et les mette en garde de ne pas retomber dans leur travers. Dans un dernier temps, après avoir donné à son discours une orientation gnomique sur les conditions sociales, on commentera la valeur du nous qui implique aussi le spectateur. Trivelin réunit à nouveau les protagonistes dans un vous qui les invite au retour et à la fête. Si cette dernière réplique confirme le rôle de guide de Trivelin, elle l'impose également en tant que patriarche de l'île, sorte de figure messianique chargée de répandre la paix sur la terre. En effet, outre l'apostrophe « mes chers enfants », ligne 11, qui s'inscrit dans cette perspective, on trouve une référence au Dieu, à l'amour du prochain et surtout une formule de clôture qui n'est pas sans rappeler celle de la bénédiction. Il y a un champ lexical de la religion. Il peut aussi avoir une leçon finale. La leçon finale de la pièce est la différence des conditions n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous. Ligne 16. Cette formule a de quoi surprendre dans la mesure où elle semble justifier avec fatalisme une certaine forme d'inégalité sociale. Tout se passe en effet comme si l'on ne pouvait remettre en cause la hiérarchie sociale du fait de son essence divine. Les maîtres resteront maîtres, ainsi la veut la Providence. Ne nous étonnons pas. Le propos de Marivaux n'est pas politique mais moral. Il ne faut pas voir en lui un révolutionnaire sur le plan politique, mais un réformateur moral. On ne peut d'ailleurs pas parler de retour à la situation initiale, ce qui marquerait réellement une régression et ferait fi de l'évolution des cœurs qui a bien eu lieu. Les valets sont redevenus serviteurs, certes, mais les maîtres sont devenus plus justes, plus sensibles et généreux. En un mot, plus humains. Les rancœurs ont été oubliées, peu importe donc que les maîtres aient retrouvé leur statut. Les différences de classe ne font pas l'inégalité entre les hommes. L'essentiel est que chacun a guéri de ses maux et a découvert des sentiments authentiques. C'est à la paix sociale qu'appelle Marivaux, et fondée sur un véritable humanisme. Ce n'est pas la société qu'il faut changer, mais l'homme. Audacieux dans la critique sociale, Marivaux se montre conservateur en politique, mais surtout particulièrement sensible à l'injustice. Il peut aussi être un divertissement et portée morale du dénouement. La dernière phrase de Trivelin annonce les réjouissances et la réconciliation des protagonistes, ainsi qu'un divertissement dansé et chanté qui achevait le spectacle. Selon la tradition des comédiens italiens, les paroles ne sont sans doute pas de Marivaux. Le premier couplet affirme à lui seul la valeur morale de la pièce et la tonalité heureuse du dénouement. Les conflits sont oubliés au profit des chants et des danses, du plaisir et de la bonne humeur. La véritable noblesse est celle du cœur. Quels sont les enjeux de cette dernière scène? Tout d'abord, il y a un dénouement plein de belle humeur, mais aussi une question sur le progrès ou la régression. Une scène qui reste inscrite dans une perspective comique, le dénouement ne trahit pas l'atmosphère générale de la pièce et rappelle à la fois le lien étroit qu'entretient Marivaux avec la comédie italienne, la réflexion qui marque le XVIIIe siècle sur l'opportunité d'utiliser l'émotion pour éduquer l'âme du spectateur. La vie de Marianne ou le paysan parvenu ressemble fortement à l'île des esclaves car ils connaissent une forte ascension sociale en passant à travers divers milieux qui sont parfois critiqués. On va procéder à la lecture du texte. Que vois-je ? Vous pleurez, mes enfants ? Vous vous embrassez ? Ah ! Vous ne voyez rien. Nous sommes admirables. Nous sommes des rois et des reines. Enfin, final, la paix est conclue. La vertu a arrangé tout cela. Il nous ne faut plus qu'un bateau et un batelier pour nous en aller. Et si vous nous le donnez, vous serez presque aussi honnêtes gens que nous. Et vous, Cléantis, êtes-vous du même sentiment ? Je n'ai que faire de vous en dire davantage. Vous voyez ce qu'il en est. Voilà aussi mon dernier mot, qui vaut bien des paroles. Vous me charmez. Embrassez-moi aussi, mes chers enfants. C'est là ce que j'attendais. Si cela n'était pas arrivé, nous n'aurions puni vos vengeances, comme nous avons puni leur dureté. Et vous, Iphicrate, vous, Euphrosyne, je vous vois attendri. Je n'ai rien à ajouter aux leçons que vous donne cette aventure. Vous avez été leur maître et vous en avez mal agi. Ils sont devenus les vôtres et ils vous pardonnent. Faites vos réflexions là-dessus. La différence des conditions n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous. Je ne vous en dis pas davantage. Vous partirez dans 2 jours et vous reverrez Athènes. Que la joie à présent et que le plaisir succèdent au chagrin que vous avez senti et célèbre le jour de votre vie le plus profitable.